Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission du Guide de l'auto, édition du 18 décembre 2021. C'est Frédéric Mercier qui est là en l'absence d'Antoine Joubert qui est en Californie, non pas sous le soleil, mais sous la pluie de ce que j'ai vu. En tout cas, Antoine va nous raconter ça bientôt. Je suis en compagnie de Germain Goyer, mais à distance cette semaine. Germain, qu'est-ce qui se passe?
Bonjour Frédéric, effectivement une émission très 2021 pour terminer cette année qui a été, ma foi, mouvementée. Alors, malgré moi, j'ai attrapé ce satané virus, comme c'est le cas de presque 500 000 personnes au Québec dans les 22 derniers mois, si le compte est bon de mon côté. Alors, forcément, j'ai pas pu me déplacer en studio avec toi pour enregistrer cette émission-ci.
Mais il y a la technologie qui nous sauve, Germain. On peut se parler à distance quand même. Moi, je suis au studio, toi, tu es à la maison. Fait qu'on est à une distance plus que raisonnable de quelques kilomètres. Content de voir que tu as l'air en forme quand même, malgré les nouvelles.
Oui, effectivement. Donc, quelques symptômes s'apparentant beaucoup à ceux d'un rhume, je dois l'admettre. Mais je suis bien content d'avoir préalablement été vacciné adéquatement. Je crois sincèrement que c'est ce qui limite les dégâts de ce côté-là pour les symptômes. Et je croise les doigts pour que rien n'empire de ce côté-là.
Ben, je le souhaite aussi, Germain. Puis,
écoute... À l'aube des fêtes, c'est pas nécessairement très joyeux, mais bon, on va s'y faire.
Je vais venir te porter des petites offrandes au pied de ta porte si tu te sens seul.
Voilà, tu l'as dit en onde, tu vas être obligé de le faire dorénavant.
Germain, la COVID n'a pas eu que des impacts sur toi et ta famille cette semaine. Elle en a eu auprès des organisateurs du Salon de l'Auto. Ça va être notre première actualité. On va parler à Bertrand Godin un petit peu plus tard au cours de l'émission pour jaser de sécurité au volant pendant les fêtes, mais aussi de l'annulation de ce Salon de l'Auto-là. Mais je veux qu'on en discute tout de suite en début d'émission. Grosse nouvelle quand même, le Salon de l'Auto de Montréal qui avait annoncé en grande pompe bon, qu'on revenait en 2022 après une absence forcée l'année passée à cause de la COVID. Puis à quelques semaines seulement de la tenue de l'événement, ben paf, on ferme les livres alors que beaucoup de fournisseurs, beaucoup de constructeurs automobiles avaient déjà bien entamé les préparatifs. Faut dire que la situation évolue vite, mais grosse nouvelle quand même dans le monde de l'auto cette semaine au Québec.
Effectivement, c'est une nouvelle qu'on surveillait du coin de l'œil. On s'imaginait que si la situation épidémiologique allait empirer, ben qu'on allait voir cette nouvelle nous tomber sur la tête. Ça s'est peut-être même produit un petit peu plus tôt qu'on l'aurait imaginé. Mais bon, comme tu le mentionnais, là, c'est un événement d'une très grande envergure avec une logistique très complexe. Et on ne peut pas annuler ce type d'événement-là quelques jours à l'avance.
Imagine.
Et avec le congé des fêtes qui est à nos portes, donc essentiellement une ou deux semaines de pause pour tout le monde, je pense que c'était finalement la bonne décision à prendre. Évidemment, c'est malheureux, là. On avait tous hâte de retourner au Palais des Congrès pour ce salon-là, mais pour une deuxième année, il n'y en aura pas. Bon, on peut quand même rappeler que le salon était prévu du 21 au 30 janvier 2022, donc ça avait été... On avait choisi des dates à la fin du mois pour peut-être se donner une petite période de battement, là, justement, en retour des fêtes, pour analyser la situation. Mais bon.
Puis d'un point de vue plus personnel, écoute, c'est plate pour les amateurs, c'est plate pour l'industrie. Oui. Puis nous autres, au Guide de l'Auto, ben tu sais, là, on a notre kiosque là-bas depuis belle lurette. On jasait avant la COVID avec les visiteurs du salon. On était là pour leur serrer la pince, pour vendre des guides aussi. Tout était en place pour recommencer ça en 2022. les préparatifs étaient très, très bien amorcés, je te dirais, pour ce qui est du kiosque puis tout ça. Fait grosse déception de finalement voir que ça ira pas avant janvier 2023. Puis c'est pas juste Montréal, hein. Toronto a annulé son salon aussi. Québec a annulé son salon qui était censé se tenir en mars. Fait que c'est généralisé au Canada.
Oui, effectivement, dans les heures qui ont suivi l'annonce des organisateurs du Salon de Montréal, mentionnons quand même que celui de Montréal est le premier dans le calendrier des salons de l'auto canadiens. Donc, j'imagine que du côté de Québec, de Toronto, de Vancouver, un peu comme à l'école, on essayait de regarder la copie du voisin pour voir quelle direction on allait prendre. Mais à l'intérieur d'une journée, on a annulé tous les salons canadiens. Donc, je me répète là, mais tout ça est bien malheureux.
Très malheureux, effectivement. Puis moi, je peux pas m'empêcher de penser aux organisateurs du salon du véhicule électrique qui s'est tenu au Stade olympique. C'était quoi, en octobre ou novembre? Eux ont eu un joli timing. Franchement, là, ils ont eu la fenêtre d'opportunité où c'était possible de faire des gros rassemblements. Il n'y avait pas de limite de visiteurs. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était porter le masque, finalement. Fait que tant mieux.
On se rappelle que le passeport vaccinal n'était pas exigé que si on voulait manger sur place. Là. Donc, on avait vraiment la fenêtre idéale pour tenir ce salon-là. Salon qui s'est qui a été un succès finalement. Donc, visiblement, il y a encore de la place pour ce type d'événement-là. Mais malheureusement, pour le Salon international de l'auto de Montréal, ce sera partie remise, j'allais dire l'année prochaine, mais non, ce sera
2023. Commence à faire loin. Dans les actualités, sinon, Germain, un truc qui est tombé assez récemment, c'est le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada qui a annoncé qu'il allait bonifier son programme de subvention pour aider les consommateurs à acheter des véhicules électriques. Donc, on ajoute un 73 millions de dollars à la cagnotte, ce qui devrait permettre d'aider les Canadiens, dont les Québécois, à acheter un véhicule électrique d'ici la fin de mars 2022. Fait que pour la prochaine année, au moins, le rabais de 5 000 $ là, qui est offert par le gouvernement fédéral demeure en place. Faut être clair, là, le 5 000 $ n'est pas augmenter, c'est juste la cagnotte finalement de ce programme-là qui est bonifié de façon à faire durer le programme plus longtemps. Puis quand on parle de fin mars...
Parce que la sacoche commençait à se vider.
Exact, ouais, ça va vite, là, puis l'adoption se fait de plus en plus rapidement des véhicules électriques. Puis fin mars 2022, donc la fin estimée de l'argent qui a été ajouté, bien, ça coïncide avec le prochain budget fédéral. Fait qu'il n'y a rien qui dit que ça va être annulé après ça. Reste à voir ce qui va être fait du côté du gouvernement du Québec dans les prochains mois, prochaines années. J'ai hâte de voir parce que...
On sait que d'ici un an, il y aura une élection en plus, ouais, au provincial. Donc, tout dépendant de quel côté la balance penchera, ça pourra avoir une incidence sur le programme Roulez vert du Québec. Là.
Absolument. Puis reste à voir, là, c'est 8 000 $ qui est offert par Québec en ce moment. C'est la province la plus généreuse au Canada de ce côté-là. Est-ce que ça va rester ce montant-là? Est-ce qu'on va graduellement baisser les subventions au fur et à mesure que l'offre des véhicules électriques augmente? Puis les prix, bon an, mal an, vont baisser. On l'a vu avec la Nissan Leaf, la Chevrolet Bolt cette année. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Mais sachez que pour la prochaine année, du moins, les aides financières à l'achat d'un véhicule électrique demeurent en place.
Et on peut imaginer là, qu'avec le prix de l'essence qui, lui, il a connu une petite baisse là, il y a peut-être trois semaines environ, mais de manière générale, le prix du litre d'essence ne tend pas à la baisse. Donc, on peut comprendre que de plus en plus de gens s'intéressent.
Germain, le nombre de questions qu'on reçoit, oui, en ce moment sur les véhicules électriques, c'est capoté.
Même hybride rechargeable, tout le monde essaie de penser à une alternative aux véhicules à essence traditionnel. Donc, voilà.
On a publié cette semaine sur le site du Guide de l'auto un essai de la nouvelle Hyundai Ioniq 5. Oui. Vous êtes nombreux à lire cet essai-là. Clairement, il y a un engouement autour des véhicules électriques, puis même hybride rechargeable. Donc, bonne nouvelle que les aides financières demeurent, parce que reste que sans ces aides financières-là, ce serait difficilement possible pour, disons, les consommateurs de la classe moyenne de se procurer un véhicule électrique. Peut-être sur le long terme, ça resterait payant, là, mais à l'achat, des véhicules à 45 000, 50 000 $ c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, malheureusement.
Dans un autre ordre d'idées, cette semaine, General Motors et son usine à Oshawa, en Ontario, ont sorti une première unité des camionnettes pleine grandeur. Donc, on a assemblé un premier Chevrolet Silverado HD High Country 2022. Et il est décoré en rouge et blanc.
Comme, avec la belle feuille d'érable sur le côté.
Comme notre beau pays. Et,
un drapeau roulant.
Oui, et ce véhicule-là a été mis à l'enchère à l'interne pour amasser des fonds pour une fondation venant en aide aux enfants malades. Et c'est une concession du Québec qui est bien connue dans l'univers de la camionnette. Donc, c'est la concession de Jean-Claude Payet à Berthierville qui a obtenu, qui a misé le plus gros montant pour cette camionnette-là. Donc, qui devrait être en exposition bientôt dans la concession de Berthierville.
C'est ça, ils vont l'amener au concessionnaire pour le montrer à tout le monde. On se rappelle que, bon, l'usine d'Oshawa, on avait annoncé les portes de cette usine ontarienne-là il n'y a pas longtemps. Ben, il y a peut-être 2 ans, puis cette année, on avait annoncé sa réouverture. Donc, une super nouvelle pour l'industrie automobile canadienne. Puis, on y construit maintenant des camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra.
Considérant la demande extrêmement forte pour ce type de véhicule-là, ben on peut se réjouir de les voir être assemblés au Québec, même si...
Au Canada. Oshawa n'est pas au Québec.
Au Canada, pardon. De les voir assemblés au pays, ben on ne peut que s'en réjouir, même si la portion verte bien pensante de la société doit grincer des dents.
Mais il y a un Silverado électrique qui s'en vient, Germain. Tiens-toi là pour dire.
Oui, mais c'est pas demain qu'on va voir ça. Bon, il ne se passe évidemment pas une semaine sans qu'on parle de véhicules électriques et quand on en présente des nouveaux. Chez Toyota, on a donné une bonne claque cette semaine de ce côté-là.
Oui, puis je trouve ça intéressant parce que Toyota a longtemps émis certaines réserves par rapport à l'électrification de ses véhicules. On parlait beaucoup, beaucoup d'hydrogène. Là, bon, tu vois, pour 2022, on arrive avec un premier véhicule électrique dont la diffusion risque d'être assez limitée, là, le fameux BZ4X. Mais cette semaine, Toyota a annoncé à l'échelle mondiale qu'il prévoit écouler 3,5 millions de véhicules électriques par année à partir de 2030. Fait que c'est quand même bientôt, là. Puis ils ont lancé, en fait, ils ont présenté pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais bien 16 concepts de véhicules électriques entre la gamme Toyota puis la gamme Lexus. Il y avait notamment
c'est
quelques trucs.
C'est des images en 3D, hein?
Ouais, écoute, c'est vraiment, quand on parle de concept, c'est le concept d'un concept, là. Mais il y avait des trucs assez cool, une espèce de réinterprétation moderne du FG Cruiser, une potentielle voiture sportive qui deviendrait un peu l'héritière spirituelle de la LFA. Là. Il y avait quelques trucs assez cool là, qui pourraient peut-être un jour se matérialiser dans 10-15 ans.
Qui ressemblait un peu à ce qu'on pourrait, à ce que pourrait prendre la forme d'un Tacoma qui serait électrique aussi. Là. Évidemment, avec 16 véhicules, on ne pouvait pas avoir que des VUS et heureusement. Donc, on a une gamme assez étoffée. Mais bon, ne vous présentez pas en concession Toyota demain matin pour vous procurer l'un de ces véhicules-là. On est encore à l'étape là, du dessin en trois dimensions.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
C'est maintenant l'heure de parler des essais routiers de la semaine, Germain. Puis je crois comprendre que tu as essayé un Infiniti QX 50 avec le dos coupé.
Oui, effectivement. donc, le Infiniti QX 55, véhicule qui était arrivé l'année dernière. On voulait peut-être essayer de donner un petit coup de pouce au QX 50 qui, lui, bat de l'aile.
Tristement, depuis la nouvelle génération du QX 50, c'est la débandade. Là. En fait, chez Infiniti, au complet, les ventes sont désastreuses.
Oui, voilà. Donc, le QX50, lui, bat de l'aile, mais la marque, au complet, elle connaît d'importantes difficultés. Essentiellement, le QX55, c'est une version coupée ou tronquée, si vous préférez, du QX50. Mais sinon, tout est pareil. Donc, la même mécanique. C'est un moteur turbo-compressé à compression variable. Bon, on en avait parlé en long et en large avec le QX50. On avait fait tout un tabac quand c'était sorti. Ça devait être révolutionnaire comme mécanique, mais en pratique, on est loin de la grande révolution. C'est pas plus performant qu'un moteur turbo-compressé à 4 cylindres de 2 litres traditionnel.
Transmission CVT aussi, je pense, pour un véhicule...
Oui, ben, j'y arrivais, ouais. Mais... Parce que les deux grandes qualités vantées de cette mécanique-là, c'était les performances, qui sont pas bien plus présentes que chez la compétition allemande ou même avec le Acura RDX, par exemple. Et l'autre qualité, c'était la consommation d'essence. Et moi, je me suis tenu là un petit peu plus de 10 litres au 100. Il y a pas de quoi écrire à sa mère. Là, c'est rien d'épatant non plus de ce côté-là. Et là, bah, tu le mentionnais, on a une transmission CVT. Évidemment, si vous conduisez là avec une pédale, un œuf en dessous du pied droit, vous remarquerez peut-être même pas qu'il y a une CVT. Mais dès qu'on sollicite moindrement le moteur turbo, eh bien, la transmission CVT se lamente. Et franchement, c'est très désagréable.
Je me souviens que Infiniti avait parlé d'avoir apporté quelques modifications pour rendre le QX55 un peu plus sportif par rapport au QX50. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dénoté ou c'est des beaux termes marketing?
À part te dire qu'il porte peut-être un peu plus dur, je pourrais pas te mentionner quelque chose
avec une suspension peut-être un peu plus rigide.
Oui, peut-être, mais encore là, c'est rien de très très convaincant. Sinon, à l'intérieur, ben on continue de retrouver la superposition des deux écrans, donc un au-dessus de l'autre. Est-ce que c'est pertinent et génial comme disposition?
Non.
Je ne suis pas convaincu.
Je te confirme que non.
L'infographie est inégale en plus. Hein?
Ouais.
Donc, il y a des menus qui se dédoublent. Franchement, c'est vraiment pas l'idéal. Bon, tu le sais, je mesure un petit peu moins de 6 pieds. J'ai trouvé que l'assise du siège conducteur était un peu juste, un peu courte. Donc, si vous êtes de grande taille, il faudra porter attention à ça. Et bon, il va sans dire, comme c'est une version à la partie arrière tronquée, l'espace de chargement est évidemment réduit, mais pas réduit de beaucoup, là, parce que le QX50 n'est déjà pas celui qui est le plus spacieux.
Ouais, mais on sacrifie quand même un peu de place pour le ouais. Look, finalement. Il est beau.
Oui,
pour être beau, il est beau.
Le look, oui, il est beau, mais encore là... rien pour se lancer sur les murs. De ton côté, Fred, tu as pu mettre à l'essai le Ford Mustang Mach-E.
Ouais, je tiens à dire que je me suis jamais lancé sur les murs pour aucun véhicule, Germain. Faut être beau en tabarouette pour se lancer sur les murs. Et oui, j'ai conduit le Mustang Mach-E. En fait, j'étais censé conduire le Mach-E GT Performance, là, la fameuse version... survitaminé. Puis il y a eu des petits problèmes. Pas avec le véhicule, mais avec le service qui était nécessaire sur le véhicule. Je pense qu'on devait changer les pneus ou quelque chose comme ça. Puis j'ai pas pu l'avoir à temps. Puis bref, j'ai refait l'essai du Mustang Mach-E qu'on a utilisé pour faire le match comparatif dans le guide de l'auto 2022. Donc un véhicule qu'on avait mis en compétition face au Tesla Model Y, Volkswagen ID4 et Volvo XC40 Recharge. Puis c'est le Mach-E qui avait d'ailleurs gagné notre match comparatif. Un véhicule qui nous avait bien impressionné. Puis encore une fois, écoute, j'en ai fait l'essai. J'aime beaucoup ce véhicule-là. J'aime l'intégration technologique à l'intérieur. Je sais pas comment ça va vieillir. Des fois, je sens déjà des petits craquements. En virage ou même quand on prend quand les routes inégales du Québec font leur travail, mais franchement, c'est un véhicule qui est très joli, qui attire l'attention. Côté batterie, on est là aussi. C'est la version Premium All-Wheel Drive que j'avais, donc 4 roues motrices avec la batterie à plus longue autonomie de 88 kWh. Fait qu'une autonomie de plus de 400 km là, facilement. C'est un véhicule qui, encore une fois, m'a prouvé sa grande compétence. Là, Ford a travaillé fort sur ce produit-là. Puis ça paraît, le Mach-E, à mon avis, demeure un choix très intéressant dans le créneau des véhicules utilitaires électriques à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui s'en viennent bientôt dans ce créneau-là. Fait que ce sera intéressant de, je pense, bientôt, au Guide de l'Auto, refaire un match comparatif avec les nouveaux venus. Et le Mach-E qui sera en quelque sorte le benchmark, si tu me permets l'expression.
Oui, et on se rappellera que lorsque le véhicule avait été lancé, les puristes avaient été nombreux à crier.
Encore.
Oui, ils sont.
Pas un Mustang, là. D'ailleurs, tu auras remarqué que je l'appelle Mackie et non Mustang Mackie.
Oui, c'est peut-être la stratégie qu'aurait dû utiliser Ford, mais bon, c'était un sacrilège pour bien des gens. Cela dit, t'as pas besoin d'aller bien loin sur les routes du Québec pour en voir.
Ah non, les ventes, ouais, ça va bien.
Donc le succès est au rendez-vous. Donc visiblement, c'est un pari réussi pour le moment chez Ford avec. Le Mustang, Mackie. Moi, j'ai pas peur des mots.
Appelons les choses par leur vrai nom. Germain, on va aller...
On appelle un chat, mais là, on appelle un cheval.
On va aller à la pause, Germain, puis au retour, on s'entretient avec Bertrand Godin au sujet de sécurité automobile, puis je pense qu'on va glisser un mot aussi sur le salon de l'auto avec lui.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, on n'aura peut-être pas le temps des fêtes qu'on avait prévu initialement. Ça va peut-être être une petite affaire plus tranquille, mais quand même, il y a des festivités qui s'en viennent pour bien des gens. Puis qui dit festivité dit consommation d'alcool. Puis quand t'entres l'automobile dans la recette, ben faut faire très attention.
Oui, c'est un terrain un peu glissant. Et pour en parler, ben, on reçoit aujourd'hui Bertrand Godin, qui est porte-parole de l'action communautaire de la brasserie Labatt, en partenariat avec Nez Rouge, qui vise essentiellement à améliorer le bilan du réseau routier.
Salut Bertrand.
Bonjour Bertrand.
Hey, salut les gars.
Puis ton temps des fêtes, Bertrand? Comment ça s'annonce?
Ben, ça s'annonce quand même plus réduit, mais avec quand même des moments de bonheur et puis... comme on dit, hein, chaque année, on se souhaite la santé.
On va se le souhaiter.
Oui, puis il faut faire les gestes pour que tout le monde le soit, puis c'est encore plus vrai cette année.
Ça fait quand même plusieurs années qu'on associe ton nom, ton visage avec la sécurité automobile. Puis bon, quand on parle de sécurité automobile, on le sait, là, un des gros facteurs qui cause des accidents sur les routes du Québec, c'est encore l'alcool, malheureusement. Explique-moi la nature de ton partenariat, là, c'est avec la brasserie Labatt, ce qui peut sembler peut-être un petit peu ironique, mais comment ça se passe? Comment vous travaillez à sensibiliser la population par rapport à ça?
Ah, mais déjà, écoutez, ça remonte, mon association avec Labatt remonte au début des années 2000. Donc, ça fait 20 ans où, justement, on avait fait une campagne de sécurité routière. Et puis, c'est vraiment tout un honneur là d'être porte-parole d'une campagne avec le plus important brasseur canadien. C'est vrai que l'engagement de Labatt sur la consommation responsable de leurs produits par des adultes, là, c'est important. Et c'est pourquoi ce qu'on veut, c'est que les gens soient en sécurité, que les gens soient responsables quand vient le temps de festoyer. Et ça, on l'a vu avec les années depuis, si on regarde depuis les années 70, 80, 90, il y a toujours eu une amélioration. Des fois, on dit que le message passe pas. Mais il passe le message parce que je vois aujourd'hui les nouvelles générations beaucoup plus responsables. Mm-hmm. Et ça, je suis certain, grâce aux médias, grâce justement à des campagnes, des outils comme Nez Rouge, c'est des choses qui font en sorte que les gens aujourd'hui prennent une décision éclairée.
Par le passé, on a beaucoup tapé sur le clou de l'alcool et on continue de le faire encore aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des méthodes très efficaces pour déceler le taux d'alcoolémie, autant pour monsieur, madame, tout le monde que pour les corps policiers. Mais est-ce qu'il y a des méthodes similaires si on consomme, par exemple, des médicaments ou du cannabis et la méthode pour le déceler serait différente de celle pour l'alcool, là?
Ah, tout à fait. Bon, c'est certain que les policiers ont diverses façons de pouvoir détecter et d'aller chercher précisément les substances qui ont été absorbé par les gens. Donc, ça, c'est certain que ça aussi, ça l'a beaucoup, ça s'est beaucoup raffiné, ça s'améliore d'année en année. Et ça, ben, c'est important. C'est aussi ce qui fait en sorte que les gens se disent, ouais, ben, c'est vrai, j'ai pas de chance à prendre parce que, tu sais, on parle souvent du cas extrême, de l'accident mortel, de l'accident qui cause des blessés, où là, on est accusé, naturellement, de crime majeur. Mais il y a aussi le fait que, bon, c'est criminel aussi juste d'avoir consommé et d'avoir pris le volant. Donc, c'est pourquoi que là aussi, les gens disent, on n'a pas de chance à prendre, mais il y en aura toujours des gens, malheureusement, qui vont pas écouter leur petite étoile en dedans, soit là, de dire, ah, oh, tabarouette, il me semble que je suis correct, mais attention, ces substances-là, la première chose que ça fait, ça dérange le jugement. Et mais aujourd'hui, comme la BAC le précise, là, tu sais, du moment où on planifie notre consommation et qu'on trouve des solutions comme prendre nez rouge, appeler un taxi, rester chez un ami, c'est toutes des choses qui vont éviter des accidents, qu'il faut le dire, là, comme l'alcool au volant et autres, ben c'est des situations complètement, entièrement évitable.
Ben oui, absolument, c'est ça.
Une action collective là, fait la différence.
Puis bon, tu parles des nombreuses conséquences en lien avec tout ça. Comment, en 2021, là, je sais que tu sais, ça a longtemps été bon sur la sécurité. Après ça, on a parlé des possibles bon, dossiers criminels puis tout ça. Comment on fait la sensibilisation maintenant? Est-ce qu'on parle plus de santé? Est-ce qu'on parle plus des dangers liés à l'arrestation puis de ne pas avoir sa voiture pendant un certain temps? C'est quoi la communication, l'angle de communication que vous essayez d'utiliser avec la clientèle?
Ben c'est simple, hein? Puis on le voit très bien avec les nouvelles générations qui prennent la décision de ramasser toutes les clés de ceux qui viennent nettoyer. Et à ce moment-là, ben on désigne un conducteur. Puis ça, ben moi, c'était mon rôle ça à l'époque, parce que moi, je voulais essayer les autos de mes chums. Donc, je prenais pas une goutte d'alcool. J'étais celui qui conduisait toutes les voitures et j'étais très, très bien là-dedans. C'était ça qui était mon petit bonheur. Et puis, ben, faut le dire, un chauffeur désigné, il faut que ça soit une personne qui est bon, absolument pas consommée.
Sinon le nom de chauffeur désigné perd tout son sens, là.
Oui, tout à fait. Et connaître nos limites. Hein. Si on décide de boire, ben, faut le faire de façon responsable et décider à l'avance de combien de consommation on va prendre et de rester tout simplement à l'endroit où on est et puis s'assurer là, qu'il n'y a plus aucune trace d'alcool lorsque vient le temps de prendre le volant. C'est certain, manger avant de boire va peut-être faire en sorte qu'on va consommer un peu moins. Et si on prévoit conduire, ben choisissons une boisson sans alcool, il y en existe.
Ouais, effectivement, il y en existe beaucoup, puis c'est ça, c'est pas le choix qui manque là. On est loin de la batte tablette d'il y a longtemps. Puis tout, bon, tu dis que ça fait 20 ans que tu fais ça, Bertrand, qui était associé dans tout ça. Est-ce que tu le sens le changement de mentalité entre les générations?
Ah ben oui, énormément. Peut-être parce qu'à l'époque, tout le monde était sous, parce qu'il y avait pas personne qui avait du jugement. Là, il y en a toujours un ou deux. Qui, eux, a décidé que, parce que, imaginez, là, on a quand même tous une part de responsabilité lorsqu'on invite quelqu'un. Puis moi, je l'ai vécu, hein, dans les années 90, j'avais été manger chez des amis, puis ça paraissait pas. La personne, bon, on la voit prendre un verre de vin, tout est beau, on s'en rendait vraiment pas compte. Et cette personne-là a été prise dans un barrage et elle dépassait le
18.
Elle avait eu des accusations criminelles, j'en revenais pas. Parce que cette personne-là avait pas l'air saoul. Tu sais, des fois, on se dit, ben garde, c'est clair, là, personne n'est pas en état de conduire. Mais le bout du nez ne clignote pas lorsqu'on arrive à ces points-là. Puis en plus de ça, aujourd'hui, avec le mélange d'alcool, peut-être même de drogue légale, en plus de médicaments, ben Christy, ce mélange-là, même si vous n'atteignez pas le 0.08, ben c'est simple. Vous êtes probablement en état pas en état de pouvoir conduire votre véhicule. Vous êtes avec les facultés affaiblies. Puis qui, on le dira jamais assez, conduire un véhicule, c'est une tâche complexe, c'est une tâche à risque. Et lorsqu'on est conscient des risques, ben ça nous amène à être beaucoup plus vigilants, à comprendre, à avoir du respect pour la route, la voiture et les autres qui sont sur la route. Et ça amène aussi le petit côté humilité qui fait en sorte de dire « Ouais, OK, j'ai rien à prouver là, à prendre mon véhicule. »
Tu nous disais que dans ta jeunesse, tu étais bien souvent le conducteur désigné. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Et en deuxième volet, j'ai envie de te demander, tu es humain comme tout le monde, il doit bien t'arriver de prendre à l'occasion peut-être une bière ou un verre de vin. C'est quoi ton truc personnel à toi pour rentrer à la maison de manière sécuritaire? Est-ce que c'est nez rouge? Est-ce que c'est d'appeler un ami? Est-ce que c'est de dormir finalement chez la personne qui te reçoit? C'est quoi ton truc à toi?
J'attends d'être à la maison pour prendre une bière, Germain.
C'est pas fou, ça?
Ah, c'est aussi valable.
mais n'empêche que ce que tu dis, Germain, est très vrai. C'est certain que le pire, c'est de se sentir piégé, c'est-à-dire que tu t'en vas fêter, tu as pris de l'alcool, et là, tu as comme une obligation de dire « Ah, faut que je revienne ». Vous savez, le facteur humain est un facteur imputable. C'est « Ah oui, il faut que je revienne à la maison à tout prix », le mot « à tout prix ». Et c'est pourquoi là que cette planification-là de se dire « OK, bon, c'est quoi ma zone là de penser et d'être très, très discipliné là-dessus ». C'est simple, c'est pas de se retrouver obligé de prendre sa voiture.
Ouais.
Et à ce moment-là, ben il y aura aucune raison de la prendre, cette voiture-là.
Quand on regarde le bilan routier de la SAQ, en sortant là du cadre de l'alcool et des facultés affaiblies, on remarque une tendance à la baisse là d'accidents et de décès, surtout entre 2019 et 2020. Puis ça coïncide aussi avec tes observations où tu dis observer là une amélioration au fil du temps, mais il y a une augmentation très importante et c'est celle du décès chez les motocyclistes. Comment on explique une augmentation de presque 50% des décès entre 2019 et 2020?
Alors que le trafic sur les routes en 2020 était quand même pas mal plus bas là, la pandémie a frappé, ça a été beaucoup de télétravail pour bien des gens.
Et il y a eu une baisse tout le reste, mais pour les motocyclistes, c'était une augmentation et une augmentation très forte. Là.
Oui, bien, vous savez, c'est très difficile d'aller chercher les vraies raisons. Quoique, on peut parler, par exemple, lorsqu'il fait très beau, comme on a eu pendant l'été, ben, les gens préfèrent prendre la moto que prendre l'auto. Donc, il va y avoir plus de déplacements en moto, donc ça augmente les risques d'accidents. Puis moi, je suis très prudent avec la statistique des décès et des blessés, parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur la route par manque d'observation, par manque de connaissances, et il va y avoir accident. On va pas répertorier malheureusement tous les accidents et cibler vraiment la cause de l'incompétence du conducteur qui fait en sorte qu'on aurait une statistique beaucoup plus juste. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui perd le contrôle de sa voiture, qui se retrouve carrément dans le décor, mais heureusement, il n'y a pas de blessé, ben il rentrera pas dans les statistiques. Mm-hmm. L'autre personne qui a fait la même erreur, qui malheureusement, il y avait une voiture par hasard qui passait juste en rencontre et ça crée un face-à-face, il y a deux morts, on va le comptabiliser. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile et on aurait tout intérêt à aller chercher vraiment les causes réelles pour faire en sorte d'augmenter peut-être l'enseignement dans divers segments de la conduite. Ce que je vois, par exemple, depuis que je fais ce métier de d'enseignant de conduite d'urgence, eh bien, j'ai eu la chance de voir pas loin de 10 000 jeunes.
Quand même, hein?
OK, c'est du monde. Donc, je sais très bien certaines lacunes que nos jeunes conducteurs peuvent avoir, par exemple, par rapport à savoir gérer l'attention, de la mettre au bon endroit, au bon moment. Si on augmentait cet enseignement-là, peut-être qu'on aurait aussi moins de distractions au niveau de regarder le cellulaire ou regarder même ne serait-ce de changer de poste à l'intérieur de la voiture ou regarder le passager lorsqu'on a une discussion avec. On garderait les yeux probablement beaucoup plus sur la route. Et tout ce qui peut être dynamique, les connaissances dynamiques d'un véhicule associées à la lecture de comment gérer l'adhérence et l'anticiper cette adhérence-là lorsque vient de faire une manœuvre pour mieux coordonner un freinage, pour mieux coordonner un virage.
Absolument.
C'est des choses que moi, je perçois là, qu'on doit absolument...
Fait que l'enseignement de la conduite automobile, mais chose certaine, Bertrand, c'est mieux de le faire à jeun que de le faire en état d'ébriété. C'est ça que je comprends? jamais le message n'est pas passé pour certaines personnes. Fait que, écoute, Bertrand, évidemment, on invite ou on supplie même les auditeurs qui pourraient nous écouter à pas prendre une goutte, à ne pas prendre le volant quand ils ont consommé de l'alcool. Idéalement, pas prendre une goutte d'alcool quand on prend le volant. Moi, j'essaie d'appliquer ça le plus possible. Bertrand, pendant qu'on t'a au téléphone, je veux qu'on glisse un mot sur l'annulation du Salon de l'Auto de Montréal qui a été annoncé cette semaine. T'étais censé, encore une fois cette année, être l'un des porte-parole du Salon de l'Auto. Comment ça s'est passé à l'interne, cette décision-là? Est-ce que tu l'as appris en même temps que nous? Est-ce qu'on t'avait mis au courant? Je suis curieux de t'entendre à ce sujet-là.
Écoutez, je pense que les gens de la corporation avaient travaillé tellement fort pour faire en sorte de revivre un Salon de l'Auto et tous les efforts de l'équipe pour pouvoir mettre ça en place, c'était phénoménal. Et comme tout le monde, hein, on n'a pas eu beaucoup de journées pour se rendre compte à quel point cette pandémie-là là, explosait tout d'un coup. Je l'ai appris en même temps que tout le monde.
Ouais.
Et j'en suis tellement désolé, c'était une décision avant tout de santé publique et puis mais ça prouve aussi toute la motivation. Il faut y croire, il faut croire qu'on va trouver une solution et qu'on va revivre des fêtes de l'automobile comme le Salon de l'Auto de Montréal nous a habitués depuis tant d'années.
On sait, Bertrand, que l'organisation du Salon de l'Auto de Montréal faisait face à certaines difficultés. Monsieur, madame, tout le monde, je pense, avait hâte de retourner au Palais des Congrès pour assister justement à cette fête de l'automobile. Mais de l'autre côté, bien des manufacturiers automobiles, eux, avaient signalé leur intention de ne pas se présenter au Salon de l'Auto de Montréal, qu'il y ait salon ou non. Là. Donc, bien avant là, l'arrivée en croissance de ce nouveau variant-là, bien des manufacturiers avaient dit non, on ne sera pas présent. Comment on explique que des manufacturiers automobiles refusent d'aller dans un salon de l'automobile?
Oh, ben il y a plusieurs raisons et ça, je pense que c'est important de leur demander à eux, parce que bon, il y en avait d'autres qui, eux, étaient très motivés à pouvoir aller exposer les voitures et puis partager l'amour de l'automobile. Mais ça, c'est pas d'hier. On en a vu des manufacturiers, des fois, pour des raisons très personnelles au niveau de l'entreprise et stratégiques aussi, de dire, bon, mais cette année, on passe notre tour et on reviendra. C'est pas parce que, par exemple, certains se retiraient que ça veut dire qu'ils ne reviendraient pas dans un an ou deux. C'est toujours évolutif, ce genre de stratégie. Et on le sait, pour certains, les temps ont été difficiles pour pouvoir justement avoir de l'inventaire. Et ça, c'est une des raisons parmi tant d'autres.
On te connaît pour ton optimisme généralisé, ton sourire, ta bonne humeur. Est-ce que tu crois encore à un salon de l'auto comme on a pu le voir dans les années passées, donc sur plusieurs étages avec des centaines de voitures, des centaines de milliers de visiteurs? Est-ce que tu crois encore à ça?
Bien, croire à ça, oui, j'y crois d'une façon différente éventuellement parce que tout est en évolution. Et puis, c'est certain que les salons de l'auto seront différents de qu'est-ce qu'on a connu, en tout cas moi, de qu'est-ce que j'ai connu à l'époque où on allait à la place Bonaventure, dans le monde des années 80. Je regarde comment tout ça a évolué. Et puis l'interaction qu'on peut avoir.
Mais jusqu'à 2020, Bertrand, c'était encore très similaire. Tu parles de la place Bonaventure, mais c'était encore le concept de bon, on va là, puis on peut s'asseoir dans les autos, puis tout ça. Cette année, il y avait quand même un optimisme, quand même, malgré le fait qu'il y a plusieurs constructeurs, comme Germain l'a dit, qui venaient pas. Il y avait un optimisme. Il y a plusieurs constructeurs qui avaient annoncé même des modèles super intéressants qui auraient été à Montréal. Je pense au Cadillac Lyriq, Nissan Ariya, tu sais, des nouveaux véhicules.
Des véhicules très attendus. Ouais, pour les consommateurs.
Exact. Fait oui. Il y avait de la viande, là. C'était quand même intéressant. Fait qu'il y a encore une volonté, on dirait, des constructeurs, mais l'aspect autant de gens dans une même salle, s'asseoir derrière les véhicules, je sais que c'est un plaisir pour tellement de visiteurs. Est-ce qu'on peut aspirer à ça, selon toi?
Ah, puis poser la question, c'est répondre. Annuellement, depuis les 20 dernières années, c'est pas loin de 200 000 personnes en 10 jours qui venaient au salon de l'auto. Ça prouve quelque chose. Ça parle. Les gens sont heureux de pouvoir voir les nouveautés, mais aussi moi, et je pense qu'on est tous pareils, là, de voir des voitures concept, de voir des prototypes, mm-hmm. de voir l'évolution de l'automobile. On a toujours de plus en plus de questions. Et si je regarde par rapport justement à ces années 80-90, où bon, la technologie de motorisation était toujours pareille, aujourd'hui,
la grande nouveauté, c'était l'injection, mais une fois qu'on en a parlé, on a fait le tour assez vite, là.
Oui, tout à fait. Et là, on se retrouve avec toutes sortes de nouvelles solutions au niveau de la conception des bâtis, au niveau de la gestion d'énergie, au niveau de la mobilité urbaine. Et c'est pourquoi le salon, à l'époque, avait justement la zone verte pendant tellement d'années et que là, on voit maintenant la voiture électrique dans chez tous les manufacturiers. Mm-hmm. Mais bon, il y a d'autres solutions où les manufacturiers travaillent et qui vont nous permettre aussi d'avoir un impact positif là, qui va réduire justement l'empreinte écologique sur notre planète.
En tout cas, Bertrand, on va se souhaiter de se reparler en janvier. On va se parler avant ça, j'espère, là, mais en janvier 2023. Puis on va vraiment souhaiter qu'il y ait un vrai de vrai salon cette fois-là et que la COVID ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Oui, regarde, c'est ma foi le plus cher.
Mais me semble j'ai dit ça l'année passée aussi. Fait que j'ai mes petites réserves, là. Mais on va se le souhaiter quand même.
C'est pas le jour de la marmotte, c'est l'année de la marmotte.
C'est l'année de la marmotte.
Hey Bertrand, merci beaucoup. On va te souhaiter des très joyeuses fêtes puis au plaisir de se reparler en 2022.
Ah, merci les gars, puis j'ai hâte de vous revoir. Donc, passez des joyeuses fêtes en santé.
Salut.
Merci beaucoup Bertrand et de très joyeuses fêtes dans ton salon à défaut d'avoir un salon de l'auto.
C'est gentil.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Frédéric, terminons l'émission avec quelques questions du public. On a Nadia qui nous a écrit et elle nous dit qu'une de ses amies s'est procuré un Genesis GV70 et qu'elle le trouve très beau. Est-ce que ce serait un bon remplaçant pour son Audi Q5 2015?
Hey, tellement, vraiment. On est plusieurs, je pense, dans l'équipe du guide à avoir été franchement impressionnés par le Genesis GV70. C'est un constructeur qui a encore son nom à faire. Genesis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la marque de luxe de Hyundai. Mais oubliez ce que vous avez vu chez Hyundai. Là. De toute façon, en fait, depuis quelques années, Hyundai fait des produits franchement intéressants. Mais chez Genesis, on est à un autre niveau. On met vraiment le paquet. Puis le GV70, c'est un VUS compact de luxe comparable au Q5 en termes de format. Puis franchement, là, méchant boulot. C'est, à mon avis, le véhicule le plus intéressant de la gamme jusqu'à présent. Puis oui, ça peut absolument faire un remplaçant intéressant à un Audi Q5. Mieux équipé dès le modèle d'entrée de gamme. On peut y aller avec un moteur 3.5 litres turbo plus puissant, une intégration technologique super intéressante, une présentation intérieure qui pourrait faire rougir les gens chez Audi. Vraiment, moi, j'ai adoré ce véhicule-là. Ceci dit, ben, ça dépend de votre relation avec les véhicules, mais c'est sûr que l'image de marque de Genesis n'est pas encore celle de Audi, mais à mon avis, ce n'est qu'une question de temps. Ce constructeur-là a vraiment le vent dans les voiles. Il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, qui va arrêter Genesis. Puis on sait maintenant qu'il y a une version électrique de ce modèle-là qui va s'en venir au cours de la prochaine année. Donc, une autre bonne raison de se tourner vers ce produit-là. Franchement, oui, c'est un... Au moins, allez l'essayer, je dirais, Nadia, puis vous allez le constater par vous-même. Mais moi, c'est un des meilleurs produits de cette catégorie-là, sans aucun doute.
Genesis qui était débarqué initialement avec des berlines.
Trois berlines.
Et visiblement, on n'abandonne pas ce créneau-là de véhicules parce que cette semaine, mentionnons-le, on a renouvelé la grande berline de la gamme, la G90, pour 2023. Donc, nos intentions demeurent.
C'est un peu le porte-étendard de la marque encore, là. Oui. Mais les ventes vont se faire avec le GV70 puis le GV80 qui est un peu plus gros. Puis le GV60 aussi, premier modèle seulement électrique qui s'en vient. Ça va être intéressant de voir ça en 2022. Sinon, Germain, il y a Paul qui nous a écrit, qu'on salue, qui a plusieurs Honda Accord depuis le début des années 2000. Il n'a jamais envisagé vraiment de se procurer une Honda Civic, mais le modèle de nouvelle génération est rendu tellement gros que finalement, il se demande s'il ne devrait pas choisir une Civic au lieu d'une Accord. Donc, hésite vraiment entre les deux modèles 2022, Civic 2022 ou Accord 2022. Comment tu vois ça?
Ben effectivement, c'est une bonne question. C'est une question pertinente. C'est certain que si vous avez eu des véhicules à boîte manuelle par le passé, bon, vous devez être déçu avec l'Accord qui ne le propose plus, malheureusement. Bon, et si un véhicule à haillons vous intéresse, bon, évidemment, la Civic, qui pour 2022 propose une version à haillons, mm-hmm. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant à mentionner. Bon, de l'autre côté, la Honda Accord propose une mécanique plus puissante. Hein. On a en option le moteur à 4 cylindres turbo compressé de 2 litres qu'on n'a pas avec la Civic jusqu'à temps qu'on nous présente finalement la Type R, je présume. Donc, tout est une question de priorité pour vous, Paul. C'est sûr qu'au fil des années, la Civic s'est embourgeoisée. Vous le mentionniez, elle est plus grosse, plus volumineuse, plus spacieuse. Elle est aussi plus dispendieuse. Hein? Donc, le prix que vous étiez peut-être habitué de débourser, le montant que vous étiez habitué de débourser pour une Accord il y a peut-être 5, 10 ou 15 ans, eh bien, correspond désormais à la facture moyenne pour une Civic. Là. Donc, si vous allez, par exemple, vers une Civic à haillons, une version Sport Touring, j'en ai d'ailleurs fait l'essai tout récemment, vous allez être à 36 000 $. Donc,
c'est incroyable.
Oui, donc, mais en même temps, on en a entre guillemets beaucoup pour ce prix-là. Là. Donc, tout est une question de priorité. Mais si vous n'avez pas besoin d'une berline intermédiaire aussi grosse et encombrante que l'Accord l'est désormais, ben oui, la Civic peut entièrement faire le boulot. Sinon, ben l'Accord demeure un bon choix.
Faut dire que Paul a des Accords depuis le début des années 2000, mais la Civic 2022 est probablement plus grosse que son Accord 2000. Hein?
Voilà, c'est pour ça que je suis pas nécessairement réticent là à lui suggérer de faire cette transition là. Prochaine question, on a Lynn qui nous dit qu'elle a un budget d'environ 100 000 $ et elle se demande quel véhicule électrique elle pourrait acheter. Elle aimerait avoir un bon système à 4 roues motrices et idéalement, ce serait un VUS car elle apprécie la position de conduite de ce type de véhicule.
Ben, tout d'abord, je tiens à dire que j'aimerais moi aussi avoir le budget de Lynn, 100 000 $. Ça donne quand même place à beaucoup de choix. On me demande souvent si j'avais un budget illimité, quel véhicule je choisirais. Puis même électrique ou à essence, peu importe, moi je réponds la Porsche Taycan. C'est un véhicule que je trouve absolument phénoménal, que j'aimerais proposer à Lynn, mais malheureusement, son budget de 100 000 $ n'est même pas assez... élevé. C'est un excellent budget, mais la Taycan commence à environ 120 000 $, donc à moins de vouloir étirer un petit peu plus pour aller chercher ce véhicule-là que je trouve franchement épatant à tous les fronts, qui a 4 roues motrices, qu'on peut aller chercher en version familiale encore plus pratique, qui est extrêmement amusant à conduire. Bref, je n'ai que de bons mots pour ce véhicule-là, sauf peut-être l'autonomie qui est un petit peu décevante à 350 quelques kilomètres. Mais bon, un petit peu plus cher que les 100 000 $ dont on parle. Sinon, on parlait du Ford Mustang Mach-E tantôt, un véhicule qui, bien équipé, peut coûter facilement 70 000-80 000 $. Ça pourrait être une option intéressante pour vous. Puis il y a d'autres VUS qui vont s'en venir là, au cours des prochains années. Je pense au Cadillac Lyriq qui va commencer autour de 80 000 $, qui a l'air assez prometteur. Ça serait mes choix, je dirais. Allez voir chez Ford, allez voir chez GM aussi avec peut-être le Cadillac. Puis si vous avez envie de dépasser votre budget un petit peu, mais pourquoi pas aller faire un petit tour chez Porsche. Germain, l'émission tient à sa fin. Je tiens à te souhaiter un très joyeux temps des fêtes. J'espère que la COVID ne t'empêchera pas de festoyer un peu, au moins virtuellement, avec tes proches. Puis je tiens à dire aussi qu'il va y avoir une pause d'enregistrement de l'émission du Guide de l'auto pour les 2 prochaines semaines. Mais avec Antoine, Germain, t'as préparé une petite revue de fin d'année qui sera disponible sur Cube Radio pendant les fêtes.
Oui, une émission spéciale du temps des fêtes qu'on a enregistrée ces derniers jours, dans laquelle on mentionne qu'on a bien hâte de participer au Salon de l'Auto de Montréal 2022. J'aurais deviné...
Ça a déjà mal vieilli.
C'est une émission enregistrée il y a quelques jours, malheureusement avant que l'organisation du Salon nous annonce sa décision. Mais sinon, on vous souhaite une excellente écoute de cette émission et surtout de très joyeuses fêtes.
Merci d'être à l'écoute, puis on se revoit en 2022 avec Antoine qui va reprendre son micro dès le début du mois de janvier. Cube Radio.